Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi.
Mais on était dans ce qu'est la vérité du
cyclisme. Bien sûr.
On est dans ce qu'est le cyclisme à l'état pur.
Il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis.
On est autour du clocher, sur la route qui serpente. Et la prime au prochain tour, on se bat pour 10 francs.
Exactement.
On se battait pour 5 euros. C'est ça, le cyclisme.
Les grandes gueules du sport.
Soyons nous-mêmes.
Soyons Marbagnon.
Georges Quilineau.
C'est quoi cette connerie?
C'est toi, c'est toi.
Un jour tu t'es enflammé, il y a quelques semaines. Hein, tu t'oublies quand tu t'enflammes.
Avec Fred qu'on salue, ouais. qui remet une petite couche.
Fred Bass, ouais. Avec Fred,
c'est ça, Marc Madio.
Ouais. On est avec Jean Pino, Pascal Duprat et Marc Madio. Ça court plus pour 10 francs aujourd'hui. Hein.
Ça dépend parce qu'il y a quand même eu des Tours de France il n'y a pas si longtemps que ça,
ouais.
Où des coureurs avaient amassé plus d'amendes que de prix gagnés. Donc 10 francs, ça peut faire la différence.
France-Suisse. Jean Pinot qui nous a dit il y a quelques instants qu'il était beaucoup tombé pour sa première sur le Tour de France.
Je te confirme. Ouais. Première étape, Luxembourg 2002. 7 chutes dans la même.
Ah ouais, d'accord.
Ah ouais.
Tu savais plus faire du vélo, en fait.
Tu savais pas faire du vélo, en fait.
J'étais un peu tendu.
T'as arnaqué tout le monde.
T'es tendu. On est à Barcelone pour le grand départ de la 113e édition du Tour. Hein, début du chrono par équipe à 17h05. Intégral Tour dès 16h, évidemment, jusqu'à la fin de l'étape. Ça va finir à un peu avant 20h. Vous ne raterez rien, bien sûr. Il y a la radio digitale 100% Tour, évidemment, sur l'application RMC pour écouter l'After Tour, notamment pendant la durée de la Coupe du Monde de football. Ce soir, France-Paraguay, 23h avant match, évidemment, sur l'antenne. Manu Petit, Jean-Louis Tour aux commentaires et l'after ensuite. Dans un instant, on va accueillir Bernard Hinault pour parler. Ah bah lui, il peut nous parler de tout, Bernard.
Attention.
Ah oui, t'as été coéquipier avec lui.
J'étais coéquipier.
Ah, on va voir ce qu'on peut dire et ne pas dire.
Aïe.
Mais Bernard, il sait ce que c'est.
Que des bonnes histoires.
Que des bonnes histoires. Bernard sait ce que c'est la construction d'un vainqueur du Tour. Peut-être qu'il aura des conseils pour Paul Sexas. Il sait ce que c'est aussi d'atteindre 5 Tours de France, comme va essayer de le faire Tadej Pogacar. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Remportez un bon cadeau aujourd'hui de 50 euros à valoir sur Agfa Photo Print, hein, c'est super, ça vous permet d'imprimer vos photos pendant les vacances, pour faire vos albums, également pour imprimer, si vous voulez, la photo de Jérôme Pinot sur un mug. C'est possible.
Ça fait rêver les gens.
Mais pour développer vos appareils photo, bien sûr, remporter votre bon cadeau Agfa Photo Print, appelez le 3216 touche 4, et puis surtout pour participer au jeu avec vos GG, c'est ça aussi. Envoyez sport au 732-16, sport au 732-16. Allez, tout de suite, les GG, vous nous ouvrez la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Les GG cette semaine, ce qui m'a interpellé, ce sont les mots de Paul Sexas, donc qui a dit, en étant au pied de la Sagrada Familia il y a quelques jours, qu'il accomplissait son rêve de gosse, même s'il a que 19 ans, de participer à son premier Tour de France. Il se rappelle qu'en tout petit, il regardait les exploits de Julien Alaphilippe et de Thibaut Pinot sur ce Tour de France mythique, on s'en souvient. En football cette semaine, Erling Haaland, qui va affronter le Brésil demain avec la Norvège, a parlé de la confrontation, comme un rêve de gosse aussi. Il disait, quand j'étais gamin, voilà, je me disais, un jour, j'espère pouvoir affronter à la Coupe du Monde la Seleção. Il va y avoir droit. Donc je voudrais qu'on parle de ça aujourd'hui, les amis. Quand un sportif de haut niveau se retrouve face à son rêve de gosse, Jérôme, Pascal et Marc. Tiens, Marc, ton premier Tour de France, est-ce que tu utilisais les mêmes mots que Paul Sexas? Est-ce qu'il y avait la dimension de rêve de gosse? Est-ce qu'on se raccorde à ce qu'on était enfant?
On se raccorde à ce qu'on était enfant. Moi, alors je l'ai pris sous un angle différent quand je suis arrivé sur mon premier tour. C'était avec Bernard, d'ailleurs, en 82, le premier Tour de France. Je me souviendrai toute ma vie du frisson que j'ai eu en montant sur la rampe de lancement du prologue à Bâle, en Suisse.
Ah oui.
J'ai dit, là, ça y est, tu y es. Tu rentres dans le grand monde. En fait, quand on est coureur cycliste, quand on a fait le tour, quand vous croisez quelqu'un dans la rue, vous dites, je suis coureur cycliste professionnel. Ah ouais? La première question qu'on vous pose, c'est, t'as fait le tour? Si vous répondez oui, vous êtes un vrai coureur professionnel. Si vous répondez non, j'ai pas fait le tour, on sent bien qu'il y a une petite déception chez la personne qui vous a posé la question. Donc ouais, le moment sur la première rampe de lancement de mon premier Tour de France, c'est un moment particulier.
C'est pas neutre.
Je m'en rappelle.
Même si t'as fait des courses avant.
Non, c'est pas neutre. Et le deuxième grand moment sur un des grands moments sur le Tour, c'est les Champs-Élysées.
Ah ouais.
Quand tu finis ton premier tour sur les Champs-Élysées. Et c'est pour ça que moi je suis un peu sceptique sur la nouvelle formule de la dernière étape du Tour. Je trouve que on pourrait faire une grande course à Paris, un grand prix de Paris
avec la butte
de Montmartre. Et je pense que ça aurait un succès phénoménal. Mais quelque part, le Tour, c'est un truc... L'arrivée sur les champs, c'est quelque chose de différent. Et l'arrivée en peloton sur les champs, ça a une saveur et ça symbolise quelque chose. Alors, c'est les médias, oui, on s'emmerde sur la journée. On s'emmerde à regarder l'étape des champs.
C'est l'étape des coureurs, les champs.
Pour le peloton. C'est fait pour les coureurs. Ouais. Moi, j'ai envie que Christian nous entende et qu'il se souvienne que l'étape des champs, c'est l'étape qui appartient aux coureurs. Ouais, c'est le moment où les rescapés du Tour se parlent dans le peloton. Mm-hmm. Pendant 3 semaines, ils se sont fait la guerre. Au moment de la dernière étape du Tour, ils se parlent, ils se congratulent.
Et on rend les armes ensemble.
Et on rentre sur les champs ensemble. Vous voyez, toi là, regarde. Ouais, regarde,
j'ai la chair de poule.
J'ai la chair de poule parce que c'est un truc unique.
On va monter la clim.
C'est unique. C'est la magie du Tour.
C'est une troupe qui rentre du champ de bataille.
Tu te rends compte de l'immensité des champs. Au premier passage, avant d'entrer sur les champs, il y a une clameur. Il y a une clameur qui monte. La route est ouverte. Le peloton est tout petit.
Ouais.
Mais il est majestueux sur les Champs-Élysées. Et il y a cette communion entre les coureurs au sein du peloton, il y a cette communion entre le peloton et les spectateurs.
T'en parles, t'es ému. Franchement, c'est touchant.
Pourtant, ça fait un moment que j'ai pas fait le.
Avant de vous écouter, les gars, la fascination dont tu parles pour le Tour, là, le fait la première fois sur la rampe et la première fois sur les Champs-Élysées, pendant ton premier Tour de France, parce que je pense à Paul Sexas, par exemple, sur ton premier Tour, t'arrives à t'en détacher? La fascination.
Non, t'es forcément pris par le Tour.
Est-ce que t'arrives à courir normalement?
Pas au début. La première journée sur le Tour, tu dis Ah ouais, c'est quand même autre chose. Mmh. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, un peu différent petite nuée en matière.
Demain,
première étape, et la première étape en France, là, tu te dis, ah ouais, c'est quand même autre chose.
Donc il faut s'y faire quand même, Jérôme Pinot, toi, t'as connu ça aussi. Ouais,
juste la petite particularité d'aujourd'hui, quand même, tu vas te rendre compte que t'as jamais fait 14 km de chrono avec trois rangées de spectateurs de chaque côté de la route. Mmh. C'est la première fois que ça va lui arriver, avec du son, avec du bruit, avec un hélico,
Caméras partout qui vont scruter chacun de ces petits gestes.
Ouais.
Tout va être repris, analysé, disséqué et tout ce que vous voulez. Vous les premiers.
Mes souvenirs de gosse ont construit mon rêve de faire le Tour. Quand tu es gamin, quand tu es dans une famille cycliste, on t'emmène au Tour. Et moi, mon papa faisait.
Et puis le regard change.
Mon papa faisait l'ardoisier au Tour de France féminin. Et à l'époque, le Tour de France féminin était avant le Tour de France avec masculin. Jeannie. C'est à l'époque où tu étais pote avec Jeannie.
Très amis. On est très amis.
Et je sais. Mais à l'époque, un peu moins. Ouais. Bon, bref. Et du coup, moi, petit, j'allais voir et j'allais chercher mon père. Sur les champs, j'étais invité avec ma mère, mon frère, et on allait voir mon père. Et je me souviendrai toujours de ce son quand Daniel Mangias, speaker, dit « Mesdames, messieurs, les coureurs du Tour de France, c'est un spectacle, tu rentres en scène. » Et ça, pareil, les frissons, quand tu le vis, 20 ans plus tard, 2002, tu rentres sur les champs, t'es là où tu voulais être, en fait. Et je crois que le sentiment que j'ai de ce jour-là est plus fort que sur la rampe de lancement au Luxembourg, au départ.
Parce que le regard du public et des gens et de ta famille
a changé.
Et parce que j'ai une image forte quand je suis gamin et je m'y vois à la place. Je me rappelle un peu plus tard, on était très proche de l'équipe Z à l'époque avec mes parents. On allait voir Roger
avec Pascal.
Et je me rappelle de voir les coureurs Z et notamment Éric Boyer, bronzé, affûté à l'arrivée du Tour, et de voir un coureur, j'en ai vu plein des coureurs cyclistes professionnels avant de voir Éric Boyer, mais de voir Éric Boyer à la fin du Tour de France, il avait quelque chose presque de mystique, de vrai, tu sais, comme quelque chose qui n'est pas la réalité. Tu dis, c'est un coureur du Tour de France.
Et toi, tu t'es senti comme ça quand tu l'as fini?
Eh ben, après ce fameux, parce qu'il y a les champs avant étaient de bonheur dans la journée. On avait le plaisir de faire un tour d'honneur en équipe, acclamé par les spectateurs qui étaient venus nous voir. C'était très différent, avec une petite binouse dans la poche quand même, parce qu'on avait le droit après.
Avec modération.
Et on est allé sur la route pour rejoindre le bus de l'équipe. Là, je me suis dit, je vais être Éric Boyer. Tu vas les être, gens vont me regarder comme ça.
Donc tu t'es vraiment raccroché au gamin que tu étais, quoi.
Bien sûr, je me suis souvenu de tout ça.
Mais alors, est-ce que tu as réussi à être toi-même, justement, je vais poser la question à Marc, pendant les trois semaines du tour, à être toi-même, à courir normalement, ou est-ce que...
Oui, après la course reprend
ses... Ou est-ce que le tour t'a un peu écrasé pour la première
fois? Le tour m'a écrasé, j'étais le plus jeune du tour, j'ai fait mon premier Tour de France, 6 mois avant, j'étais amateur, et 2 ans avant, je jouais au football. Donc tout allait très vite. J'ai lu la fameuse lettre « Je m'engage » avec Armstrong, Pantani, Ulrich, c'était drôle.
«
Je m'engage, pas tricher ». Et derrière, j'ai fait les trois premières étapes. Bah, je t'ai dit, premier prologue, je pars. J'ai piqué la combinaison de Walter Beneteau. J'avais pas ma combi. La deuxième, je tombe 7 fois. Enfin, j'ai mis 3-4 jours à me mettre dedans parce que c'était immense. Puis moi, j'avais jamais fait une course par étape plus longue que le Tour de l'Ain, quoi. C'était incroyable pour moi d'être là. Et surtout, le monde t'étouffe. Je suis un peu claustro. Quand il y a trop de monde, je suis pas fou. Et j'avais pas mesuré ça.
Ça doit te galvaniser aussi.
Et la
le
dernière
monde
grande image. Et après, je te laisse,
ça
Pascal.
Ça galvanise aussi.
La dernière. Ah ouais. Alors moi, j'étais quelqu'un qui me nourrissait du soutien. Ouais. Mais pour être soutenu, faut être devant. Là, j'ai pas été beaucoup devant cette année-là. J'ai fait 2e d'une étape mon premier Tour de France. Et la dernière image que j'ai, qui est incroyable, c'est le lendemain des Champs. Parce que le lendemain des Champs, les Champs sont redevenus publics et tu prends encore plus conscience.
Et tu t'arrêtes au feu rouge avec ta bagnole.
Oh, la veille,
c'était à nous.
C'était nous.
C'était à nous.
C'était notre scène.
Mais il y a quelque chose de mystique, évidemment, dans le Tour de France et dans le fait de se retrouver face à son rêve de gosse. On est dans le vestiaire des grandes gueules du sport. On parle des sportifs de haut niveau face à ce qu'ils ont rêvé de vivre, comme va le vivre Paul Sexas pour son grand départ aujourd'hui, comme le vivent actuellement les joueurs à la Coupe du Monde de foot. Toi, Pascal Duprat, dans ta carrière, évidemment, de joueur, là, j'ai envie d'aller sur le joueur. Il y a le moment où on est professionnel. Il y a le moment où on devient un professionnel, ça, dans le foot. Un joueur de première, deuxième division, un joueur de l'élite. C'est des moments qui marquent aussi. C'est pas des moments neutres. Tu écoutais tes collègues.
Ouais. Ah non, c'est pas des moments neutres. En fait, moi, le rêve de devenir joueur professionnel, ben, un peu comme Jérôme, c'est allé très vite, à 14 ans et demi. Donc j'avais tous les clubs professionnels et j'ai dû choisir dans lequel j'allais rentrer dans le centre de formation. Il se trouve que je suis allé à Sochaux. Et à partir du moment où t'es là, t'as les images des grands joueurs. Moi, celui qui m'a vraiment, par mon père bien entendu, mais celui qui m'a vraiment donné envie de jouer au foot, c'est Johan Cruyff. C'est la Coupe du Monde 74. Il perd en finale. Je m'en remets pas tellement je le trouve bon, tellement je trouve injuste qu'ils aient perdu. Et donc, quand tu te retrouves donc dans un centre de formation, bah, chaque minute que tu passes à l'entraînement ou dans les matchs des équipes de catégorie jeune ou de l'équipe réserve, t'as qu'un but ultime, c'est jouer ton premier match professionnel. En fait, ça te hante. Tu es un raté si tu n'y arrives pas, en fait. Donc, t'as ça. Tu te fous la pression en permanence. Tu commences à t'entraîner un petit peu avec les pros. On t'appelle de façon ponctuelle à t'entraîner avec les pros parce que on a vu que, ben, en réserve, tu performais bien. Et puis arrive le moment où, ben, t'es convoqué et tu vas jouer ton premier match. Et moi, il se trouve que c'était contre Nantes. Et j'en garde un souvenir mitigé. Parce que l'appréhension, j'ai pas dormi la veille, l'appréhension de jouer mes premières minutes en professionnel, et puis je me souviendrai toute ma vie. À la mi-temps, j'ai la satisfaction de faire, il me semble, un bon match. Et puis je me fais reprendre de volée par le directeur sportif qui me traite de vieux, qui me disent que j'ai été nul. Et franchement, je rentre la seconde mi-temps, je suis en pleurs. Et j'ai mes parents dans les tribunes. Et je contiens mes larmes, tellement j'ai la haine pour ma première. Donc le plus beau jour de ma vie, et puis un cauchemar, juste par des paroles, que t'es peut-être justifié, je sais pas, mais en tout cas, que j'ai jugé extrêmement dur. Donc tu rejoues la deuxième mi-temps de ton premier match professionnel, et t'as ça dans la tronche. Le mec, il t'a défoncé à la mi-temps. Tellement défoncé que...
Oui, c'est les moments qui vous marquent au fer rouge. Mais tous. Ça qui est intéressant. Non, mais Pascal, toi, est-ce que t'es arrivé, parce que là t'as eu les critiques de ton entraîneur, de ton directeur sportif, est-ce que t'es arrivé à jouer normalement, à être toi-même?
J'ai réussi parce que j'avais des coéquipiers qui étaient confraternels, en fait, qui m'ont tapé sur l'épaule. Ils m'ont dit, écoute, ça nous est tous arrivé. Bon, en fait, dans un club comme le FC Sochaux, il y a beaucoup de joueurs formés à la même école. Donc, on parle le même langage. Et puis surtout, ce qui m'avait réconforté, c'était les mots de l'entraîneur d'époque, qui s'appelait Jean Fauvergue. Et lui, il m'avait dit, en me pinçant la joue, il m'avait dit, Pascal, laisse tomber, c'est un con. Et ça m'avait réconforté pour la seconde mi-temps.
Et ça a été des mots, j'imagine, hyper intéressants pour toi, pour la suite de ta carrière derrière. Et les mots dans ces moments-là, dans les premiers Tours de France, notamment, j'imagine, sont déterminants aussi sur la construction du coureur de grande boucle que l'on va être derrière. Je veux juste revenir sur un truc qu'a dit Pascal intéressant. Il a pas beaucoup dormi la veille de sa première comme professionnel. T'as beaucoup dormi sur ton premier Tour de France?
J'ai pas de souvenir de la nuit précédente, mais je suis arrivé dans un état de stress et d'excitation qui, à mon avis, permettait pas d'avoir au moins un sommeil profond. C'est sûr, je partageais la chambre avec François Simon à l'époque, mon premier Tour de France, et il me guidait, il me suivait beaucoup. Mais malheureusement, en plus, il a été contraint à l'abandon rapidement, et c'est là où je me suis retrouvé dans la chambre avec Didier Rousse. Et là, ça a commencé à être le grand frère qui m'a guidé. Mais les premières nuits, non, j'ai l'impression que je dormais pas beaucoup. Et pour revenir à ce que disait Pascal, moi, Pascal, tu le sais, je suis un grand passionné de football. J'ai toujours rêvé d'être footballeur professionnel. Pour une chose notamment, je voulais jouer dans un stade plein avec plein de bruit dedans. Et quand je suis arrivé au Tour de France, c'était ça, j'ai retrouvé ça.
Bon, et toi, tu as bien dormi sur ton premier tour, Marco ?
Je n'ai pas de mauvais souvenirs.
Oh, mais toi, tu dors bien partout parce que la pression n'a pas de.
Si, mais non, je n'ai pas de souvenir particulier par rapport à ça.
Bon, on espère que Paul Sexas va dormir sur des oreilles qu'il a fait sa nuit de 12 heures avant la première.
Oh, il n'a pas dû faire 12 heures, mais il a dû faire. S'il a fait 6, 7,
7 heures, 8 heures, c'est bien.
C'est déjà pas mal. Allez, on referme la porte du vestiaire, les amis, à retrouver en podcast, évidemment, le sportif de haut niveau face à son rêve de gosse. On fait de la place parce qu'on va avoir Bernard Hinault dans un instant avec nous dans les grandes gueules du sport. Mais d'abord, je vais accueillir Arnaud avec nous au 32-16. Salut Arnaud.
Bonjour les grandes gueules du sport. Bonjour.
Salut Arnaud. Bonjour. Eh ben, bienvenue Arnaud et félicitations puisque c'est toi qui remporte avec Mondial Relais InPost, partenaire majeur du Tour de France, l'expérience incroyable sur la 13e étape du Tour le 17 juillet. Tu pourras aller avec la personne de ton choix donc vivre le Tour dans la caravane et également dans les espaces VIP à l'arrivée. C'est magnifique ça, non ?
Eh ben oui, c'est magnifique, Arnaud. Super. Surtout dans ma région natale parce que je suis du Lot-et-Garonne mais je suis originaire de Sochaux justement, club dont on parlait à l'instant. Et donc, ça va être une belle expérience, ça va être vraiment super sympa.
Ah ben écoute, tu seras là pour voir la victoire de Romain Grégoire en bleu, blanc, rouge avec l'équipe Groupama FDJ. Je mets la pression à Marc Pagnot.
J'espère bien.
Félicitations Arnaud, profite bien. On est ravis évidemment que tu puisses profiter de ce moment. Merci à toi.
Les grandes gueules du sport sur RMC avec Mondial Relais, partenaire officiel du Tour de France pour la 3e année. Mondial Relais, plus de 10 000 lockers et 17 000 points de collecte partout en France.
Et restez connectés avec nous, évidemment, parce qu'on offrira d'autres cadeaux hein, pour vivre des expériences avec Mondial Relais sur le Tour de France. On revient dans un instant. Un bléon arrive dans les grandes gueules du sport. Bernard Hinault, qui est un petit peu vainqueur du Tour, va lancer le Tour avec nous. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport en direct de Barcelone.
Georges Quirinot.
Les grandes gueules du sport pour le grand départ du Tour de France, évidemment, aujourd'hui. Intégral Tour dès 16h pour suivre le contre-la-montre par équipe. On est avec Pascal Duprat, on est avec Jérôme Pinault, on est avec Marc Madiot. Jérôme, le chrono par équipe, aujourd'hui, c'est un exercice particulier hein, pour débuter le Tour, évidemment. Tu vois qui avec le maillot jaune ce soir?
C'est un exercice particulier et redouté par les coureurs, notamment alors toute l'année, en plus, jour de départ du Tour de France. La peur de la chute, la peur de mal faire, la peur de mettre en difficulté tes coéquipiers, c'est très stressant comme exercice.
On rappelle que les chronos seront pris sur chaque coureur.
Oui, hein, oui,
un leader d'équipe peut être lancé dans la dernière rampe de Montjuïc.
Bien sûr. C'est un moment important. Qui est-ce que je vois comme favori? Écoute, je m'emballe assez facilement, tu me connais. Je suis un franco-français et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on va vivre le premier grand moment du Tour de France, pour nous les Français, puisque je pense que Ineos, Netap Company Ineos, Total Energy et compagnie, va remporter le contre-la-montre avec, sur la ligne, un Français, Kevin Vauclin qui sera maillot jaune du Tour de France ce soir.
Ah oui, ta grosse cote, c'est Kevin Vauclin va prendre le maillot jaune pour le départ du Tour.
Alors l'équipe, c'est pas une grosse cote, hein, parce que l'équipe a une très grosse équipe, avec des Ghana, des Tarling, des Tobias Foss, des Bernal qui vont très bien, des Arensman, Kevin Vauclin, Dorian Godon, enfin ils ont et le dernier seulement. Michal Kwiatkowski, donc ça va pas mal. Et après, j'espère que Kevin aura récupéré de son tara et qu'il ne sera plus malade et capable de rouler très fort. Il est très bon contre la montre. Donc c'est totalement imaginable que ce soir on ait un Français majeur.
Marc, ça se bosse depuis des jours et des jours, hein, un chrono par équipe.
Ça se bosse de manière continue. Dès qu'on est en stage ou dès qu'on a une opportunité de faire du chrono par équipe, on fait des exercices par rapport à ça tout au long de l'année.
D'accord, il y a même des exercices, j'ai vu certaines équipes aller sur des circuits.
On y est allé nous aussi, on était à Mortefontaine en région parisienne, mardi dernier, avant de venir sur Barcelone.
C'est des vrais exercices de cohésion dans un contrôle.
De timing, de minutage, faut tout régler, il faut régler le matériel, il faut régler les positions, c'est une répétition.
Les positions des coureurs sur les vélos, les positions des coureurs dans le groupe.
Plus on va vite.
Petite info croustillante.
Ouais, Pascal.
Vas-y.
Ouais, l'image, moi j'ai besoin de comprendre. C'est le premier de l'équipe qui fait le meilleur temps qui sera maillot jaune. Donc en fait c'est une fusée qui lance à chaque fois le dernier des coureurs.
Il se détache au fur et à mesure de la course.
En fait, ça va presque être comme une étape de montagne, en fait, les amis. C'est-à-dire qu'on risque de voir. Donc au pied de la dernière bosse, alors, l'arrivée va se jouer sur la bosse de la colline de Montjuïc.
C'est un chrono par équipe qui se termine en chrono individuel.
Oui, en chrono de côte, en fait, puisqu'on
c'est
est ici au sommet, là où se trouve le stade olympique de Barcelone 92. C'est quoi tout donc, Jérôme, on va voir Pogacar partir au pied de la bosse, par exemple, avec
l'équipe on va. Alors, ça dépend, parce qu'il y a aussi
il va pas être tout seul.
Il faut garder Del Toro le plus longtemps possible dans la stratégie, hein, parce que c'est important pour cette équipe UAE, notamment, d'avoir.
Je les verrais bien terminer les deux ensemble.
Oui. Et plutôt faire passer Del Toro au maillot jaune pour s'éviter, en cas de meilleur temps, les protocoles, etc. À noter quand même, Marc, je ne sais pas si cette info tu l'as eue hier, il y avait la possibilité de réserver des créneaux sur le parcours du circuit à Barcelone. Et sauf que l'UAE n'avait pas fait le taf. Et donc ils n'ont pas pu s'exercer sur le circuit à Barcelone. Ils ont même essayé d'appeler une équipe française, pour ne pas la nommer a priori Total Energy, pour prendre leur créneau, parce qu'ils n'avaient pas fait le taf et donc ils n'ont pas eu de créneau pour aller s'entraîner.
Et les créneaux sont attribués par l'organisation.
Erreur stratégique. Ou alors, ils n'avaient pas prévu d'être à cette heure-là sur le circuit.
Oui, en tout cas, c'est une histoire d'horaire.
Ce qu'on sait, c'est qu'ils n'ont pas fait les derniers exercices de chrono par équipe qui étaient prévus hier sur le circuit, Marc.
Non, c'est tout. Là, c'est maintenant.
C'est encore ce matin.
C'est ce matin, mais en fait, chaque équipe a un créneau horaire d'attribué en fonction de son heure de départ. Et moi, je pense que UAE a dû vouloir changer son horaire de départ pour avoir un meilleur timing de préparation par rapport à l'heure de course officielle.
En fait, c'est comme les essais libres en Formule 1. On a la possibilité d'aller sur le parcours, hein, parce que vous savez que sur le Tour de France, évidemment, on est sur la route de tous les jours. Hein.
C'est une première. Hein. C'est une première. L'histoire des créneaux horaires pour s'échauffer, se préparer pour sur le chauffer. Parcours, c'est la première fois que ça se produit.
Allez, une légende du sport français nous rejoint dans les GG.
Je m'appelle Bernard Hinault et j'ai gagné 5 fois le Tour de France.
Vosser se rapproche, Kipper s'est fini, la liste est accomplie. À l'extérieur, maintenant de Blamin, Hinault conserve la corde. Maintenant, c'est la taille du sprint, la dernière ligne droite. Hinault, toujours Hinault. Hinault devant de Blamin. De Blamin, Hinault, de Blamin, Hinault. Hinault gagne. Hinault gagne. 25 ans après Milton Bobet, victoire de Bernard Hinault.
Et je sais que là, on a plein d'auditeurs et auditrices qui m'envoient des messages, notamment sur WhatsApp, toujours avec les frissons quand on parle de Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour, dernier vainqueur français en 1985, qui est avec nous dans les grandes gueules du sport. Bonjour Bernard et bienvenue.
Bonjour.
On est avec des amis là, hein, Bernard. Il y a Marc Madiot qui est là.
Salut Bernard. Ouais,
bonjour à tous. Bonjour.
Jérôme Pinault et Pascal Dubras. Bernard, on est ravis évidemment de t'avoir dans les grandes gueules du sport. Alors, tiens, déjà, le premier sujet, c'est que il y a Tadej Pogacar qui peut s'inviter dans le club des 5 là cette année avec les 5 grands tours. Est-ce que tu penses que Pogacar va t'égaler cette année?
Bien sûr. Pour moi, c'est réglé d'avance, tout simplement parce que quand on voit tout ce qu'il a fait depuis le début de la saison, et puis ce qu'il a en face de lui, ça lui redonne de la vigueur. Et je pense qu'il va pas leur faire des cadeaux. À moins d'un incident, mais s'il n'y a pas d'incident, pour moi, c'est le vainqueur.
C'est quoi le secret pour tenir 5 Tours de France, Bernard? Parce que là, Pogacar, il débute avec justement cette même fin. C'est quoi justement? C'est d'avoir faim, toujours faim.
C'est d'avoir toujours faim, l'envie, s'amuser. Parce que je pense que avant tout, je ne crois pas qu'il pense spécialement au record, mais il pense à s'amuser. Et donc, en s'amusant, on gagne.
Toi, tu t'amusais pour ton quatrième Tour de France avant de gagner le cinquième?
Ouais, mais je me suis jamais posé la question de dire je vais battre un record, non. Ça s'est fait naturellement par la compétition.
J'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec Pogacar. Jérôme,
j'ai déjà eu avec Bernard ces conversations. On a travaillé ensemble sur un événement et une production avec un partenaire du Tour à l'époque. Et on était souvent réunis et de l'écouter, je buvais ses paroles et il me disait ça. Je m'amusais. Et moi, je lui répondais, ouais, mais quand tu tapes sur la tronche de tout le monde et que t'es le plus fort, c'est facile de t'amuser. Non, moi Bernard, je voulais aussi savoir si t'as des Pogacar va bientôt peut-être rentrer dans sa cinquième victoire. Est-ce que toi, lors de ta domination, on a entendu l'année dernière Pogacar se plaindre, se lasser un petit peu. Est-ce que toi, tu as senti une certaine lassitude, même en dominant, ou ça ne t'est jamais arrivé?
Non, ça ne m'est jamais arrivé. J'étais là pour me faire plaisir, pour faire la course. Je me posais pas de questions.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça le secret de la réussite, certainement, c'est de pas se poser de questions. Marc, Madio.
Ah non, mais...
J'étais là pour gagner, j'étais pas là pour faire des cadeaux.
Ah non, ça c'est vrai ça. Non mais moi j'ai des anecdotes avec Bernard. Je veux juste vous raconter une petite histoire qui va vous faire rigoler. On était en début de saison sur les stages d'entraînement à Opio.
Ouais.
Et la spécificité de Bernard, c'était pas d'être le plus affûté au mois de janvier. Et on était à l'entraînement du côté de la tour d'Opio. Et c'était pas du grand Bernard Hinault à l'entraînement. Et notamment les plus jeunes de ses coéquipiers lui faisaient un peu mal aux jambes à l'entraînement et le blaireau aimait pas ça. Et il avait une réflexion à chaque fois, je m'en souviens parfaitement, il disait « On verra où vous serez au mois de juillet. » Et effectivement, on voyait où il était au mois de juillet.
Mais Bernard, est-ce que c'est important justement de l'orgueil du champion, de montrer au fur et à mesure de l'année, de taper du poing sur la table quand il y a les petits jeunes qui tapent à la porte?
On a envie de leur faire plier les ailes, hein. Le terme il est là, c'est leur mettre une branlée, de s'amuser, de leur dire, mais attendez les petits gars, je vais vous montrer que le vieux il est pas si vieux. Mais moi, ma saison ne commençait vraiment qu'au mois d'avril, donc
je
me posais pas de questions, mais après quand la machine était partie, c'était pour longtemps.
Ah, tu te posais pas trop de questions le soir à table non plus, hein. T'étais un bon vivant au mois de janvier.
C'était pas la même.
Ah bah oui. Mais c'est peut-être aussi la clé de la réussite.
Chez Madame Frény à la tour d'Opio.
Oh là là.
Oui. Mais c'est peut-être la clé de la réussite, c'est d'être bien dans ta tête.
C'est ça. C'est ça.
Et à la sortie, tu mets un coup de fusil quand on a envie, quoi.
Comment tu imagines le premier tour de Paul Sexas à 19 ans? Est-ce que ça te préoccupe, toute la pression qu'il y a autour de lui, ou au contraire, tu as des conseils à lui donner pour bien le vivre?
Pas de conseils à lui donner, c'est lui qui a fait le choix. Hein. C'est lui qui a fait le choix avec son équipe de venir au tour. Maintenant, on verra à la sortie du tour ce qui s'est passé, s'il est vraiment placé au général ou s'il a pris un coup de bambou, quoi. Mais il n'y a qu'à la sortie qu'on pourra savoir. Aujourd'hui, sur quelle base on pourrait donner en disant il ne va pas être bon, il va faire ceci, il va faire cela. On n'en sait rien. Il n'y a que lui qui sait.
Bernard, j'ai une question à te poser parce que je sais que animé par la soif de victoire, tu as toujours, c'est ce qui t'a mené, le plaisir et la gagne. Tu le dis, leur faire mal. Aujourd'hui, on ne cesse de répéter qu'on attend un vainqueur français après toi. Est-ce qu'aujourd'hui tu es toujours compétiteur et tu te dis je veux garder mon sacre, je veux être le dernier, ou est-ce que tu serais le plus heureux des hommes si un Français, notamment Paul Sexas, arrivait à remporter le Tour de France?
Je serais le plus heureux des hommes, parce que c'est pas normal qu'un pays comme la France, qui a eu quand même beaucoup de coureurs, n'ait pas eu quelqu'un qui est sorti un peu du lot, quoi. On a eu de très bons coureurs depuis un certain nombre d'années, mais pas pour gagner le Tour, et aujourd'hui il n'y a que le Tour qui compte.
Est-ce que tu penses que Paul Seixas est l'élu pour te succéder?
Peut-être, mais on peut pas dire ça aujourd'hui. Je pense que quand il aura fait le Tour de France, ben, on en saura beaucoup plus sur ses capacités sur 21 jours. Et puis surtout, de faire des arrivées sans arrêt en montagne avec des costauds. Mais tant que Pogacar sera là, je crois que ce sera difficile.
D'ailleurs, tu penses que Pogacar, il a envie de boxer le petit Seixas? Là, tu penses que ça l'exaspère de voir tout ce qu'il y a autour de lui? Comment tu imagines Pogacar voir Seixas?
Bah, il va peut-être jouer avec. Parce que Pogacar, lui, il est là pour gagner. Le reste, il s'en fiche, c'est perdu. Non, que tu sois là ou pas là, c'est pas son problème.
C'est vrai que Marc, tu nous avais raconté un Giro, c'est ça, où Bernard avait, oui, avait boxé le jeune Italien qui voulait...
Le Giro 82, quand tu as fait exploser Contini... Sur une Contini nous avait mis dans le dur avec les Bianchi 2-3 jours avant. Et
oui, la veille.
T'étais pas dans une grande journée. Ouais.
Mais avec Cyril, on avait mal lu le plan, je pense, parce que nous, quand on travaillait avec des cartes Michelin, donc ça nous permettait d'avoir, avec les chevrons, la difficulté. Et là, on avait dit, bon, sur la fin du col, c'est quand même dur. Et puis, quand on a laissé passer trois coureurs italiens, puis j'arrive au sommet, je dis, mais elle est où la difficulté? Donc, on a fait la descente plein pot, on s'est battu, on n'a pas perdu trop de temps. Et le lendemain matin, il y avait une étape de 60 km avec 3 fois 15 km dans la vallée et 15 km d'ascension. J'ai dit, attendez, on va rigoler 5 minutes. Et j'ai dit, ah, mes gars, bon, vous
faites... Ça allait jamais assez vite, je me rappelle, tu nous engueulais parce qu'on roulait pas assez vite pour faire le pied à bloc. Et après, t'as déboîté, et boum. Et Contini, moi j'étais dans ceux qui s'étaient écartés. Et Contini est passé, il s'est levé. Alors toi, tu ne l'as pas vu parce que tu étais déjà devant. Il s'est mis debout sur les pédales et il s'est arrêté net et il s'en est jamais remis.
Non, mais c'est ça qui nous fait peur peut-être. C'est peut-être que Pogacar va avoir envie de jouer comme toi, Bernard. Tu vas peut-être jouer avec les jeunes loups, quoi. Ça serait quoi un bon Tour de France pour toi, pour Seixas?
Un beau spectacle. Bon, qu'il essaye. Après, on verra le résultat à la fin, quoi. Mais il faut qu'il essaye. Hein. Bon, maintenant qu'il est dedans, il est engagé. Donc, il n'a plus le choix.
C'est pas comme s'il avait été autour. C'est ça, ouais. Moi, j'ai une question toute personnelle pour vous, Bernard. D'abord, je vous voue une admiration. Vous avez été champion du monde en Haute-Savoie, à 20 bornes de chez moi. Donc, je suis obligé d'avoir une admiration sans bornes pour vous. Est-ce que vous aimeriez courir aujourd'hui, avec toujours plus de technologie, maîtrise des watts, les oreillettes? Est-ce que vous voudriez être de ceci?
Mais est-ce que j'aurais accepté les watts et puis les oreillettes?
Ça, c'est une réponse. Ça, c'est la réponse.
Parce que toi, t'étais le patron.
Ben oui. Mais je suis pas sûr que Pogacar, il accepte tout ça.
Ouais. Il subit, alors.
Parce que quand il a envie d'attaquer, il attaque. Renko, c'est la même chose. Ils sont pas en train d'écouter celui qui est dans la voiture derrière, en disant, ben, faut que tu fasses ça, fais ça. Et déjà, il faudrait que celui qui est derrière soit capable de le faire lui-même.
Oui.
Ben oui, c'est trop facile de donner des conseils, mais pas de le faire.
Merci beaucoup, Bernard. Bernard, on te retrouvera sur le Tour de France puisque tu participes à l'initiative Un enfant, un vélo avec le réseau Century 21, qui est un des partenaires de la Grande Boucle, qui est destiné à collecter des vélos pour les offrir à des enfants de familles modestes. C'est important pour toi, hein?
Ben oui, parce que peut-être dans ces opérations, un des enfants qu'on va offrir un vélo, qui est dans une cité défavorisée un peu, viendra quelques années après, 10 ans après, en se disant, tu m'as offert un vélo il y a 15 ans, et aujourd'hui, je suis le champion. Ça serait génial. On peut pas demander mieux.
Ah ben on prendrait l'histoire tout de suite. Évidemment, ça serait des moments.
Je sais qu'on est très en retard, mais c'est évident que à la recherche du grand champion. On est un sport populaire et donc on doit aller chercher des gens, des jeunes dans les quartiers populaires. Et on n'y allait pas jusque là. Et cette opération, elle est top.
Mais oui, parce que ils n'ont pas les moyens financiers pour se payer un beau vélo. Alors le fait de se faire remarquer peut-être en allant faire des petites courses, ben demain ils seront peut-être des champions.
Et oui, ça coûte de plus en plus cher aujourd'hui, en plus de faire du vélo. Merci beaucoup, Bernard Hinault, d'avoir été avec nous. Évidemment, un honneur.
Pas de problème.
Merci. D'être dans les grandes gueules du sport et bon Tour de France. On va se retrouver, hein. Je pense pendant l'intégral tour.
Passez un bon moment.
Et toute l'équipe. Ce sera toujours un bon moment, bien sûr. Et c'est toujours un bon moment quand on a le blaireau avec nous sur RMC. Allez, on revient dans un instant, les amis. Vous regardez pas vos watts hein, pour les jeux du sport. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport en direct de Barcelone.
Georges Quirino.
Avec Marc Madio, Pascal Duprat, Jérôme Pinot. Tiens, j'ai les messages sur WhatsApp. White qui me dit je suis très ému ce matin d'entendre Bernard Hinault, je suis breton. Mon père est né à Effignac, évidemment, c'est toujours quelque chose de vivre quelque chose à Effignac, la ville de naissance de Bernard. Allez, tout de suite, les jeux du sport.
RMC, les jeux du sport.
Il nous faut un extra joueur, évidemment. Donc Christophe Cessieux fait son retour pour la fin de l'émission.
Le big star.
Christophe. Et là, Christophe.
Star américaine. Ça va, les copains? Un bon blaireau, hein. Bien en forme.
Ah
hein.
Ouais. Fidèle, j'ai envie de dire fort. Fidèle à lui-même.
Ouais. Ça voilà, change pas, voilà, hein,
plus
c'est
simplement.
Foum, foum, foum.
je suis parti.
Les réponses courtes. Et il faut en avoir en réserve quand même des questions avec Bernard, hein, Georges. Hein. Ah
ouais, il ouais, y a les anecdotes toujours, hein, ça va très vite. Allez, les équipes, ouais. Les amis. Cessieux Pinot et Madio Duprat.
Ah,
c'est l'équipe qui marche, ça.
Oh là là.
Question activable,
je rappelle pas. C'est un peu ça.
Ah ouais, c'est un peu ça, parce que toi qui l'as dit.
Non, non, vous allez prendre la leçon.
J'accueille les auditeurs, Ali et Philippe. Bonjour, messieurs.
Bonjour, équipe.
Alors, je crois qu'il y en a un qui doit avoir le haut-parleur, donc on vous entend en écho. Mais Ali, c'est toi qui as appelé en premier, je te laisse choisir ton équipe avec Pinot Cessieux ou Madio Duprat.
Eh ben, je vais jouer avec Pinot Cessieux.
Allez, Ali avec Pinot Cessieux et Philippe avec l'équipe Madio Duprat. Aujourd'hui, vous pouvez remporter un bon cadeau de 50 euros à valoir sur Agfa Photoprint. Ça va être, je vous préviens, des jeux un peu éclairs. Hein. Donc, on va être très éclair. Efficace. Il n'y aura pas de questions d'élimination, que des questions. Bam, 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 bam. Voilà.
Comme allez, c'est comme Bernard Hinault, quoi.
Question à plusieurs réponses. Boum, les amis. Nous sommes en 2026. Ouais, d'accord. Quel coureur espagnol a gagné le Tour il y a 20 ans?
Miguel Indurain?
Non.
Pedro Delgado?
Non, il y a 20 ans.
Oscar Pereiro.
Oscar Pereiro. Oscar Pereiro, Christophe Cessieux marque le premier.
Oh mon Chris, il est en forme.
Voilà. Premier point pour l'équipe Pinot Cessieux. Deuxième question. Nous sommes à Barcelone. Il y a un circuit Formule 1 pas loin.
Oui.
Qui est le dernier pilote français à avoir gagné sur le circuit de Mobello?
Jackie X?
Non, le dernier pilote français.
Français. Alain
Prost. Alain Prost, Christophe, on est d'accord. Ah oui les gars.
Allez bam.
Il a gagné le trois trucs.
Il y en a pas Madio. Beaucoup des deux Français qui ont gagné des grands prix.
Bah oui, c'est ça en fait, c'était facile la question. Question auditeur, c'est pour vous Ali et Philippe, vous donnez votre réponse et ensuite votre prénom, comme ça on peut bien identifier qui a donné la réponse. De quelle ville s'élance le Tour cette année?
Barcelone. Barcelone, Philippe.
Ah bah Philippe a été le premier à donner son prénom.
Ah non, c'est Ali.
Ah,
ouais,
ah c'était Ali d'abord, mais
il a eu du temps à dire Ali, mais il a dit Barcelone bien avant.
Oui, il fallait dire c'était le prénom, Ali, donc la règle, c'est la règle.
C'est la réponse, Ali, c'est le prénom qui compte.
3-0, 3-0.
3-0. Ouais, 3-0. Ok, 3-0. Et 1 et 2 et 3-0.
Christophe déjà prêt à me monter
dessus. Bien sûr, ça y est.
Allez, ouais. question à une seule réponse. Nous sommes à Barcelone, ville olympique des JO 92. C'est juste à côté, là, le stade olympique. Qui a été sacré champion olympique du 100 mètres chez les hommes? Éliminé Christophe.
Lewis. Linford Christie.
Non, ben non.
Johnson.
C'était Linford Christie, mais là, c'était une seule réponse.
Ah là là,
c'est pas bon. Allez, on enchaîne. 3-0 pour l'équipe Pinot Cessieux. Question à une seule réponse. Quel cycliste? Question à plusieurs réponses. Quel cycliste était allé chercher une médaille d'argent pour la France sur la course en ligne?
Madouas.
Non. Mais non, à Barcelone 92.
À Barcelone le vainqueur, c'est Casartelli.
Non.
Vainqueur Casartelli.
Mais la médaille d'argent. Quel cycliste?
Jouvio.
Gaillant. Avec non. Deux LE. Quel
Ah Gianni Longo.
Gianni Longo. 3-1. Il nous reste combien de temps là? Il nous reste peu de temps. 3-1.
T'aurais dû trouver celle-là.
Non, attends, 4-0. 4-0. Allez, je vous en donne une dernière. Les amis, quel célèbre judoka a décroché sa première médaille olympique à Barcelone 92?
Douillet. David Douillet.
David Douillet, 5-0. Wow.
5-0. La manita.
Humiliation. Victoire pour l'équipe. C'est Cessieux Pinot. Christophe, il est content. En fait, on fait ça pour que Christophe se lance bien sur l'antenne. Hein. On la connaît l'histoire. Hein. Allez, bravo Ali. C'est toi qui as remporté 50 euros.
C'est tout au talent, Marco.
Les jeux du sport sur RMC avec Agfa Photoprint. Gagnez 50 euros de bons cadeaux pour éditer un album photo ou développer vos pellicules et appareils jetables à petit prix en moins de 10 jours.
Merci les amis. Christophe, on te retrouve tout à l'heure, dans pas longtemps, pour lancer ton intégral tour. 16h. 16h.
Quand on l'a montré, il a même le temps de faire la sieste.
16h. Je vais aller faire une petite sieste d'abord. Et puis 16h pour la première étape. Jusqu'à 19h15, 19h30 ce soir. On va se régaler. Il fait magnifique, un temps magnifique sur Barcelone. Les équipes sont au taquet. Marco va aller préparer ses hommes là dans quelques minutes. Et nous, on va aller aussi préparer nos hommes, passer au sandwich et ensuite à la sieste. Et ensuite, on sera en pleine forme.
Allez, Jérôme Pinot te rejoindra, Jérôme Coppel également et toute l'équipe de l'Intégral Tour. Marc, on te retrouve demain.
Ouais.
Et Pascal, tu restes avec moi parce que les paris RMC arrivent tout de suite.